Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de recevoir une partie de l'équipe de 180 degrés. Donc Éric Fesneau, qui est directeur de la rédaction, et Delphine Brunet, qui est donc rédactrice et styliste culinaire. Donc première question, qu'est-ce que c'est qu'une styliste culinaire? C'est la question que je me suis posée en regardant l'intitulé.
Eh bien, c'est en fait une personne qui s'occupe de décorer les assiettes. Mais en fait, moi, je suis aussi auteur, donc je cuisine, j'écris des recettes, je les cuisine et je les mets en valeur pour les photos. Donc, il n'y a pas de tricherie, mais c'est juste qu'on choisit de la belle vaisselle, qu'on met en scène, de manière à ce que ça ait l'air plus appétissant et que ça soit dans un décor qui suggère un bon moment.
C'est aussi donner envie au lecteur de réaliser la recette, parce qu'on la monte telle qu'elle est vraiment. En tout cas, nous, on la monte telle qu'elle est vraiment, on la réalise et on la met en scène de la façon la plus jolie possible pour qu'on ait envie de la cuisiner, parce que la cuisine, c'est aussi très visuel, et un plat qui est bien présenté, bien mis en scène, donne tout de suite envie d'être réalisé ou mangé, donc d'être mangé et donc d'être réalisé.
Comme je ne triche pas du tout dans les réalisations, les lecteurs qui vont réaliser les recettes obtiendront le même résultat que moi. Ça ne sera pas une déception, normalement, s'ils ont suivi la recette, Et voilà, normalement, ils sont satisfaits du résultat, parce que ça ressemblera à ce que j'ai fait.
Donc c'est la revue 180 degrés, qui est une revue culinaire qui est diffusée, distribuée en librairie. Oui. Mais pas que, j'ai vu que aussi vous déposiez aussi chez des boutiques ou des cavistes.
Enfin, certaines épiceries fines nous distribuent, mais c'est essentiellement la librairie.
Effectivement. Oui. Donc c'est la troisième année, je crois, c'est peut-être la troisième année.
Oui. Troisième année, septième numéro, oui.
Et c'est une revue qui est surtout une particularité, c'est que c'est une belle revue et qui est sans publicité, donc vous êtes entièrement indépendant. Vous n'êtes pas adossé à un groupe d'éditeurs et de presse.
Ouais. Ni presse ni édition, d'ailleurs, on n'a pas de maison d'édition au-dessus de nous, on édite nous-mêmes notre propre ouvrage. Et c'est vrai qu'on a choisi à notre... notre formation de se diffuser en librairie, qui nous permettait d'avoir, de dégager notre publication des contraintes du revenu publicitaire. Donc on ne compte que sur nos lecteurs pour continuer à faire le numéro suivant. Ça veut dire plein de choses pour nous. Ça veut dire une liberté éditoriale totale, puisqu'en fait on n'a aucune pression d'annonceur au-dessus de nous qui influencerait notre contenu.
Cette revue, est-ce que vous nous racontez la naissance, qui a eu l'idée, comment ça s'est passé, pour nous raconter
L'idée, elle est d'un groupe de réflexion de notre passé, évidemment. On a fait cette publication avec tout ce qu'on avait acquis au fur et à mesure de notre expérience professionnelle. Moi-même, je suis photographe culinaire depuis maintenant une vingtaine d'années. Delphine est styliste. Philippe Toinard est notre rédacteur en chef et critique gastronomique. Il travaille pour différents guides et différents organismes de presse. Fabrice Bloch, notre directeur artistique, qui a travaillé dans la communication et dans l'édition, et qui a aussi son CAP de cuisinier, donc il a une formation de cuisinier. Et Stéphane Lagorce, qui est auteur culinaire chez nous et qui écrit beaucoup de textes dans la revue 180 degrés C, a lui un passé dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il a été chef de cuisine, il a été chef de cuisine étoilé, il a été chef du Maximus de Pékin, puis son parcours professionnel l'a emmené à être ingénieur agro. Il a repris des études pour être ingénieur agro, donc c'est lui nous apporte toute une série de compétences et de savoir-faire sérieux sur la cuisine. Donc toute cette association s'est réunie pour créer la revue 180 degrés C.
Et donc la particularité, comme le sous-titre l'indique, c'est des recettes et des hommes. C'est à la fois, évidemment, c'est le livre où il y a des recettes, mais l'important, c'est aussi les rencontres avec des hommes, des chefs culiniers, des producteurs.
C'est s'intéresser à la cuisine à travers les hommes qui la font. En fait, c'est de dresser des portraits de chefs, de producteurs, de vignerons, parce que derrière chaque produit, il y a un homme, et c'est l'homme qui fait la qualité du produit. Bien sûr, le produit intrinsèquement n'a pas forcément une qualité en lui-même. Il faut qu'il y ait derrière une intervention humaine qui lui donne sa plus-value. Et nous, on a décidé de s'intéresser aux histoires singulières de ces hommes et ces femmes qui nous font rêver la gastronomie et qui nous proposent des produits hors normes ou plus quotidiens, mais très bien faits, qui ont une vraie passion, un vrai engagement dans leur métier.
Ça l'a fait, ça peut être à la fois des artisans aussi, parce que les premiers numéros, je crois, il y avait des artisans, il y a aussi c'est pas des producteurs, des pêcheurs, enfin, l'éventail est assez large, il y a les vignerons, vous avez une rubrique qui sont très un sentiment.
Bien sûr, on peut s'intéresser, on s'est intéressé à un coutelier, on s'est intéressé à un fabricant de comptoirs qui était l'atelier Nectou. On essaye de s'intéresser à tout ce qui touche à la gastronomie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que des recettes ou que des reportages dans 182 essais. Il y a aussi des auteurs qui écrivent sur l'histoire de la gastronomie ou qui écrivent des billets d'humeur sur la gastronomie en tant que telle.
Et ces producteurs, justement, comment vous les rencontrez? Comment ça, j'ai assez curieux de savoir par bouche à oreille.
Oui, c'est ça. C'est souvent en rencontrant certaines personnes. Bon, après, on a quand même des auteurs qui nous proposent des sujets, qui ont rencontré des gens et qui se sont intéressés à leur parcours. Et du coup, qui nous interpelle là-dessus en nous disant que c'est peut-être une belle histoire aussi à aller rencontrer ces personnages-là. Mais c'est souvent aussi, quand on se déplace, eh ben, on rencontre d'autres producteurs qui nous donnent aussi des beaux parcours à raconter.
Effectivement, c'est toujours des beaux parcours de vie. Ça,
oui.
c'est
assez, c'est, alors parfois, c'est ils sont cabossés aussi par
oui,
la vie.
Oui, évidemment.
Hein.
Enfin,
c'est atypique souvent, mais avec une vraie passion derrière. C'est toujours des producteurs qui sont très engagés dans ce qu'ils font, qui croient vraiment en leurs produits et qui ont envie de le défendre et qui ne sont souvent pas mis en valeur. On les voit nulle part, ils ne sont pas connus, mais pourtant, ils travaillent bien. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de les mettre en avant pour montrer qu'il y a un savoir-faire. C'est surtout en France, là, pour l'instant, on s'intéresse pas mal aux producteurs français, même si on a fait quelques reportages à l'étranger. Donc, c'est tous ces parcours-là qu'on a envie de mettre en valeur.
Et justement, est-ce qu'il y a un impact? Parce qu'à chaque fois, il y a l'adresse, par exemple.
Oui.
Est-ce que vous avez des retours, en fait?
Certains chefs, notamment, qui ont eu beaucoup de visites en ayant leur reportage dans notre revue et qui ont été aussi remarqués par d'autres guides qui ne les avaient jamais rencontrés.
Oui, dans la mesure du possible, on essaye d'être sourceur en fait de nos reportages et de pas avoir des reportages qui ont été vus et revus ailleurs. On essaye de découvrir de nouveaux talents et c'est vrai que ça vient surtout pour la recherche. De bouche à oreille sur les rencontres, comme l'expliquait Delphine, d'un chef qu'on peut aller voir et qui nous donne l'idée d'aller voir un autre producteur, parce qu'il dit vous devriez vous intéresser à ce garçon, il est vraiment bien, ou à un producteur qui nous envoie sur un chef. Et le réseau de la gastronomie, comme il nous intéresse, est assez soudé. En fait, les gens se renvoient souvent les bons plans des uns aux autres. Et comme on commence à être un peu connu sur la défense et de la qualité des producteurs qu'on illustre et notre engagement qualitatif également, on a souvent des plans qui nous sont donnés par de reportage en reportage. On a des vraies histoires à raconter dans d'autres numéros. Alors après, c'est à nous, en comité éditorial, de bien équilibrer les numéros, de ne pas avoir trop de redondance d'un numéro sur l'autre, d'être suffisamment diversifié et dans les régions et dans les produits.
Parce que régulièrement, on nous demande « mais vous n'êtes pas venu à Valence et vous n'êtes pas venu là ». Donc on essaye, comme on est un semestriel, on n'a pas non plus une production énorme. On ne peut pas parler de tout le monde en même temps. Donc on essaye d'être quand même à l'écoute et d'aller voir ce qui se fait dans des endroits qui ne sont pas forcément mis en lumière.
Mais justement, il y a un très beau reportage à Anthony La Pêcherie. C'est très, très beau. Voilà. C'est les méthodes de pêche qui sont en train de disparaître.
Et
c'est un très, très beau reportage.
C'est justement une sauvegarde d'une pêche ancestrale, en fait, qu'il pratique Anthony Mahé dans le Cotentin. Donc, dans le Cotentin, il bénéficie des très grands marnages du Cotentin qui permettent d'avoir une pêche que vous pouvez décrire dans le numéro 7, effectivement, avec un piège à poisson. C'est-à-dire que le poisson est piégé dans une sorte d'entonnoir quand la marée se retire. Très grand entonnoir, ça fait 300 mètres sur 400 mètres. Et la bernacle qui recueille les poissons, c'est comme un panier qui ferait 5 mètres de diamètre à peu près. Et ça piège le poisson, et il reste un peu d'eau, le poisson est toujours vivant. Donc le pêcheur va pêcher le poisson directement dans le filet, dans la nasse. Et c'est une pêche très sélective, puisque c'est pas comme une pêche au chalut. Il ne prend que les poissons qui sont à la bonne taille et qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'il va relâcher toutes les espèces protégées ou ce qui n'est pas consommable, en fait. C'est une pêcherie qui était... il n'en reste plus beaucoup, des pêcheries dans le Cotentin. C'est un mode de pêche qui subsiste encore, mais qui est pas du goût des affaires européennes, pour faire simple.
C'est vrai que nous, on a un peu l'équivalent que les écluses, l'île de Ré, l'île d'Oléron.
Il y a un système avec les levées, là, non ? C'est en Charente ou c'est sur la côte où il y a la pêche au carrelet.
Ouais,
ça c'est beau ça. C'est,
non, on n'a jamais fait ça, mais on aimerait bien faire un reportage là-dessus pour voir comment ça se passe. Et à chaque fois qu'on fait un reportage, c'est un long reportage, c'est-à-dire qu'on survole pas le sujet, on essaye d'avoir assez de détails pour rendre l'histoire intéressante et informative. Et donc c'est souvent sur 16 pages avec beaucoup de photos pour vraiment connaître le sujet et être à même de pouvoir le défendre, en parler et le mettre en
valeur. Vous partez à deux personnes, il y a toujours un photographe.
Toujours le photographe et le journaliste, ouais.
Oui.
Qui essaye de suivre la même histoire pour la raconter au mieux, la retranscrire au lecteur. Alors, essayer effectivement de raconter tout le parcours professionnel, de raconter l'histoire complète, les difficultés. Les modes de production, est-ce que le produit a une AOC pour certains produits, est-ce que c'est un mode de production préservé, sauvegardé, à défendre. On essaye de s'intéresser à tout ça pour essayer d'être exhaustif sur la production.
En général, nos choix s'orientent quand même sur des producteurs bio ou du moins qui respectent des valeurs qui nous sont communes, donc on va pas dans les grands.
Oui.
Et c'était un autre des fondements au moment de la création de 180 degrés. On s'est dit qu'on allait créer une revue donc en librairie avec un rythme plutôt lent, semestriel, en s'attachant sur deux saisons, logiquement, printemps-été et automne-hiver. Et on voulait absolument recaler la cuisine par rapport aux saisons. On a, dès le début, pris le parti pris de consacrer chaque numéro uniquement à des recettes et des produits de saison. Donc on les produit un an à l'avance et on produit dans chaque numéro le marché de 180 degrés C qui va parler des produits qui seront en pleine saison pendant la période de parution de la revue. Alors, sur 6 mois, on peut à la fois, sur le numéro printemps-été, on peut à la fois traiter des petits pois qui sont du début du printemps jusque aux tomates qui sont en pleine saison en juillet-août. Donc on essaye d'être assez large sur notre représentation, mais on restera dans cette période de 6 mois dans la saisonnalité. Après, à chaque lecteur de piocher dedans et d'être en pleine saison, on défend réellement cette cuisine de saison.
Même Divin Quotidien, c'est l'autre pareil. Rubrique aussi qui est consacrée.
Voilà, il y a deux rubriques vraiment recettes. Il y a le marché d'un côté qui est un peu plus pointu au niveau recettes, un peu plus technique. Et puis il y a le Divin Quotidien qui est plus sur de la recette de tous les jours, abordable aussi, facile à faire et qui donne des idées pour se renouveler, pour avoir essayer d'utiliser au mieux tous les produits de la saison.
Et justement, les sources d'inspiration de cette cuisine-là, du quotidien, c'est la vôtre,
c'est la mienne.
C'est des rencontres,
En général, c'est la mienne.
C'est des créations, c'est des variations.
À chaque fois, c'est des déclinaisons, finalement. La cuisine, il n'y a jamais une invention pure. On s'inspire de quelque chose qu'on a mangé dans un restaurant, qui nous a donné une idée d'accord de saveur, et puis après, on essaye de la réinterpréter. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. À chaque fois, je rebondis en me disant « Ah, mais oui, tiens, si je mettais ça, ça pourrait être bien. » Et je réécris des recettes. Alors voilà, c'est une longue continuité, la cuisine, mais c'est aussi des échanges quand on va manger chez quelqu'un, ou il y a certains lecteurs qui nous envoient quelques idées en disant « moi, je fais ça comme ci, moi, je fais ça comme ça ». Bon, voilà, ça fait partie du plaisir aussi de la cuisine, c'est d'échanger, de partager et de faire évoluer un petit peu, mais en douceur.
Mais il y a une rubrique aussi qui s'appelle « On-Made », en fait.
Oui.
Et là, je n'ai pas trop bien saisi, en fait, parce qu'à chaque fois, vous êtes styliste culinaire, mais on a l'impression que vous allez chez des gens.
Oui.
Et alors, je vois, je n'ai pas très bien... C'est alors, pas des recettes fait, et...
Voilà. C'est une rubrique, en fait, qui me tenait à cœur, parce que j'ai... En fait, c'est pour essayer de se passer un peu des produits industriels, industrialisés, des grandes surfaces, où on vous vend du ketchup bourré de sucre ou des biscuits et tout ça. C'est d'essayer de les refaire chez soi, parce que c'est souvent des produits simples, facile à faire, faire son pain, faire ses yaourts, voilà, ça m'a toujours plu. Et là, on a choisi un cadre, puisqu'il s'appelle Homemade, un cadre de maison. Donc à chaque fois, on se déplace chez des gens, mais c'est moi qui fais les recettes. Mais c'est souvent des échanges aussi avec les gens chez qui je suis. Et donc c'est plus pour le cadre qui soit en adéquation avec les recettes que je propose.
Des potagers, vous servez
de... Voilà, c'est ça. Là, et je prends des thèmes. Donc dans le dernier, c'était le thème du potager. Donc j'essayais d'utiliser des produits du potager et de les mettre en scène dans le potager.
Voilà. Toujours pour la partie recette, vous avez une rubrique qui s'appelle Sweet Touch. Qui se consacre plutôt à la pâtisserie, mais c'est quand même assez élaboré.
Oui, parce que là, ce sont des cuisiniers qui ont des restaurants ou des pâtissiers. Et donc là, il y a un côté un peu technique, parce qu'ils nous proposent 3 ou 4 ou 5 de leurs recettes. Donc il y a un degré un peu plus, enfin, un peu supérieur au divin quotidien, par exemple. Mais ça reste normalement réalisable.
Il y a aussi d'autres rubriques qui sont très intéressantes, comme l'archive de la cuisine, qui peut nous en parler un petit peu. Là c'est sur Blériot, c'est des documents anciens. Enfin, voilà. Il y avait une personne qui s'en occupe.
C'est Bruno Fulini, qui est un auteur historien, en fait, et un gourmand dans l'âme, à qui on a confié cette rubrique dès le numéro 1, et qui, chaque numéro, nous propose une façon de raconter l'histoire et la gastronomie à travers des anecdotes culinaires. Alors là, c'était les menus que Blériot a eu en Angleterre quand il a réussi à traverser la Manche. Alors ça a été le faste des menus de l'époque, dans les grands hôtels, les réceptions officielles, diplomatiques. Donc on revit grâce à lui des grandes épopées culinaires, souvent du 19e et du début du 20e, parce que c'est sa période de prédilection. C'est pareil, c'est un sujet sans fin. Il nous a proposé des choses comme pendant le siège de Paris, où les grands restaurants, finalement, ont mangé le zoo.
Ils n'avaient plus rien à fournir.
Comme le Paris était assiégé, ils voulaient continuer à fournir de la grande cuisine et ils ont littéralement bouffé le zoo. Ils ont proposé tout ce qui pouvait se transformer à base d'éléphants, d'hippopotames et
de girafes.
Voilà, et ça a été une période un peu spéciale, alors que les Parisiens mangeaient des animaux qu'on trouve plutôt dans les égouts, mais bon, c'est chacun son calvaire.
Il a écrit un livre qui s'appelle « Les gastronomes de l'extrême », justement, où il parle...
Il a
écrit un livre sur les gastronomes de l'extrême, ouais. Tous ces aventuriers, tout ce qu'ils ont mangé lors de leur voyage, mais mais la cuisine, c'est aussi ça, c'est des ingrédients, c'est comme une partition, on met des ingrédients, on les associe à une technique, on en a une recette de cuisine, donc c'est sans fin, mais la transformation des ingrédients via une technique, c'est ça la cuisine, c'est pour donner quelque chose d'après, un goût particulier, une association de goûts, les explorateurs de l'extrême ont effectivement des découvertes peut-être intéressantes.
C'est pour ça qu'on a appelé, notre revue 180 degrés, c'est une ouverture aussi sur la cuisine qui n'est pas que recettes, ça parle aussi des produits, des gens qui font les recettes, et aussi c'est la température du four moyenne.
Et justement, une des caractéristiques de la revue aussi, c'est l'humour, en fait.
On y tenait, parce qu'on trouvait que la cuisine, c'était toujours abordé de manière sérieuse et un peu ennuyeuse. Parce qu'il y a toujours la description de la recette, une photo, la page d'après, c'est pareil. Et bon, donc, on avait envie de prendre un peu le contre-pied de ça, même si, malgré tout, il y a la recette et la photo, mais racontée peut-être de manière un peu plus ludique, avec Stéphane Lagors qui a une plume assez drôle et qui se délecte de raconter des petites anecdotes sur les produits et qui nous font sourire à chaque fois. Parce que c'est quand même assez bien amené. Et voilà.
C'est vrai, c'est presque des recettes qui se lisent souvent. Ça.
Voilà,
je les relis sans les faire. Ça. Je les lis juste pour le plaisir de la narration ou de rigoler un petit peu parce qu'il me fait rire. Tout simplement, il est capable d'utiliser des ingrédients dans la liste d'ingrédients qui ne servent pas à la recette, qui sont juste là pour égayer toute la déroulée de la recette pour le cuisinier. En fait, ça, il est... tout au long de la recette, on se rend compte qu'on peut faire d'autres choses que la cuisine, on patiente, en buvant un verre de vin. Il y a plein de choses intéressantes à faire tout en cuisinant. Il fait travailler les enfants aussi, il aime bien ça. Il aime assez faire les tâches subalternes par les enfants. Comme écoter les cerises ou dénoyauter les cerises dans les numéros, je sais plus, numéro 1 ou 3.
Alain Robert, je ne sais pas si Stéphane Lagors sur le caramel et l'ouba, qui est assez drôle.
C'est lui aussi. Mmh. Il réitère à chaque fois.
C'est notre rubrique technique, mais pas trop, qui permet de décortiquer une technique culinaire et de la rendre intelligible pour se l'approprier. C'est pas très difficile. On a beaucoup d'idées sur chaque numéro, donc on a c'est un puits sans fond. On s'était intéressé à la cuisson aux cocottes, on s'était intéressé à la friture, aux frites, on s'était intéressé au tempérage du chocolat, on s'était intéressé donc au caramel dans le dernier, et toutes les techniques qu'on aime maîtriser pour faire la cuisine, mais simplement.
Justement, ça nous amène à ce que vous faites en dehors de la revue, qui sont des déclinaisons de la revue, justement le traité de mimologie, qui est un peu la base de technique, mais pas trop.
Qui explique la cuisine au lieu d'expliquer comment on va cuisiner, comment on va cuire ou comment on va découper, ou, etc. On va l'expliquer par pourquoi on fait tel geste, ou pourquoi on assaisonne à tel moment, pourquoi on choisit telle casserole. Et du coup, ça donne une certaine liberté en cuisine une fois qu'on a compris pourquoi on faisait les choses. Mmh. Et donc, c'était le thème de base. Après, il y a 40 recettes qui illustrent le propos et qui expliquent vraiment les choses.
Pourquoi permet de s'approprier le comment ? C'est le pourquoi, quand on a compris comment fonctionne... quoi que ce soit, d'ailleurs, que ce soit la cuisine ou la mécanique d'une voiture, on comprend comment on peut...
Il prend des exemples très simples.
Très simples.
C'est-à-dire que dans une poêle, par exemple, si vous faites cuire des steaks, si vous remplissez la poêle de steaks, il y a la surface qui n'est plus assez chaude, et du coup, la viande rend de l'eau, et donc votre steak, au lieu de griller et qu'il soit bon et croustillant, il va devenir bouilli presque, parce que ça va rendre de l'eau. Et donc... il explique voilà, pourquoi il ne faut pas faire ça. Et une fois qu'on l'a imaginé, vu, on se dit, mais oui, voilà, de temps en temps, je réussis mon steak, de temps en temps, il est raté, et on n'avait pas compris pourquoi. Et en fait, il faut faire, dans une grande poêle, il faut laisser de l'espace, sinon ça ne fonctionne pas.
Comme les pâtes, justement, il y a un rubrique qui s'appelle dérapage culinaire, qui est un peu les ratés.
Voilà, c'est pour s'amuser aussi. C'est des expériences qu'on a tous vécues, où on arrive chez des gens, le repas complètement raté, et on raconte ces histoires qui sont des histoires vécues, qui sont vraies, et qui sont souvent...
Après, sont enjolivées.
Assez drôles. plus ou moins. Il y a des fois, c'est vraiment raté, et parfois, c'est juste des petits...
Et la mimologie, c'est vrai que ça permet vraiment de s'approprier la cuisine à un niveau amateur. Et ça donne vraiment des clés pour pouvoir derrière cuisiner, comprendre ce qu'on fait. Moi, il y a un truc que j'ai retenu énormément dans la mimologie, qui est vraiment un des fondements de la cuisine, c'est les changements d'état de l'eau dans les aliments. Alors ça reste un peu abscon comme ça, mais en fait... Chaque aliment contient de l'eau. Et selon ce qu'on veut faire de son aliment, l'eau, elle a trois étapes possibles, on le sait, la glace, le liquide et la vapeur. Donc qu'est-ce qu'on veut que l'eau, la glace, on s'en fout, parce qu'on ne fait pas de la cuisine à partir du surgelé. Donc on a deux états qui nous intéressent, le liquide ou le vapeur. Donc le pot-au-feu, par exemple, est une cuisson qui permet à l'eau de ne pas changer d'état, c'est-à-dire qu'elle va rester à l'état liquide, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dépasser les 90 degrés. Et une cuisson en friture, paf, on va faire changer d'état l'eau, Et l'eau va s'évaporer dans les aliments et ne restera que les valeurs, enfin, ce qui n'est pas de l'eau dans l'aliment. On a changé l'état de l'eau dans l'aliment. Donc ça, c'est des principes que Stéphane a mis en avant de façon beaucoup plus simple que ce que je viens de vous expliquer et beaucoup plus compréhensible.
Alors justement, il va y avoir un... Vous pouvez annoncer qu'il y a le traité de Myanmologie 2 qui devrait sortir.
Ah, qui doit ouais, sortir.
Il va sortir.
Il est écrit, il est réalisé.
Non, en novembre.
En novembre, il est entièrement dédié à la pâtisserie. Donc là, c'est...
C'est Stéphane Agors qui l'écrit aussi, et sur le même principe. Pourquoi ?
Le changement de l'état du gluten. Alors là, c'est autre chose.
Ça paraît plus complexe, mais en fait, ça ne l'est pas. Non, mais il y a quand même 80 recettes qui illustrent le propos, donc qui rend compréhensible, parce qu'à chaque recette, on vous reparle de la partie technique. Donc il y a des retours, des retours de page qui permettent de justement bien comprendre. Si on n'a pas envie de lire toute la partie technique, on peut s'attaquer directement aux recettes. Et là, il y a des petits renvois de pages.
Oui, dans le corps des recettes, à chaque fois, ça renvoie.
Voilà, ça renvoie à la partie qui va expliquer.
Pourquoi on fait, pourquoi on coupe, voilà, et explique ça. Pourquoi on coupe de telle manière, et explique pourquoi on le fait.
Exactement, donc c'est un livre pratique avant tout.
La pâtisserie a encore plus d'analogie avec la musique que la cuisine, parce qu'en fait, il y a 5-6 ingrédients qu'on peut considérer comme des ingrédients de base, et avec ça, comme des notes de musique, on peut créer toutes les partitions. On peut créer toutes les partitions et jouer toutes les partitions qu'on veut. Il y a peu d'ingrédients en pâtisserie.
En pâtisserie, vous avez quand même 5 grands ingrédients qui revient à chaque fois, mais dans des états différents, mélangés différemment, et qui donne des recettes totalement différentes. Quand vous partez de la pâte à choux ou d'une pâte brisée, c'est à peu près les mêmes ingrédients de base, et vous n'avez pas du tout le même résultat. Donc c'est intéressant de se rendre compte à quel point la cuisine peut être riche à partir de peu d'ingrédients. Après, on peut rajouter des fruits, des tas de choses, mais la base, elle est vraiment restreinte.
Et le coup de main,
l'habitude, je dirais qu'on peut réussir une première fois en se disant bah, super, j'ai réussi, puis rater la deuxième fois, on ne sait pas pourquoi. On se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi. Et là, dans un livre comme ça, on va mieux comprendre pourquoi ça n'a pas marché cette fois-là. Parce qu'on se dit, ah bah oui, tiens, je n'avais pas sorti mes éléments du frigo, ils étaient froids, ou je n'avais pas fait telle chose. Et donc ça permet d'être un peu plus autonome après. Et de peut-être pouvoir composer du free jazz.
Parmi vos autres publications, il y a les carnets de Delphine, on peut en parler ?
Oui, alors les cahiers de Delphine, en fait, c'est une petite publication numérique qu'on avait lancée parce qu'en fait, notre parution avec 180 est semestrielle. Donc, nos lecteurs s'ennuyaient entre deux revues. Donc on
nous réclamait à corps et à cri.
Voilà, il y avait plus de recettes. Donc moi, je me suis lancée dans l'écriture d'une sorte de newsletter toutes les semaines où je proposais 3 recettes, une entrée, un plat, un dessert, qui était une publication numérique donc sur notre site et que les gens pouvaient s'abonner et recevoir chez eux gratuitement. Et puis ça a pris, ça fait boule de neige, ça a pris beaucoup d'ampleur. Donc, il y a eu un certain succès, un certain suivi. Et au bout d'un an de cette publication, on s'est dit qu'on allait les réunir dans un petit coffret par saison. Donc, il y a 4 petits cahiers réunis dans un petit coffret et qui sont printemps, été, automne, hiver. Et là, ça réunit tout ce que j'ai produit en un an. Et c'est de la cuisine familiale que je fais à la maison, qui a été goûtée par mes enfants, par moi, qu'on a partagé tous ensemble et qu'on a tous mangé. Et j'ai pris 3-4 kilos et voilà.
En fait, c'était donner des idées recettes de saison simples.
Toutes les semaines.
Toutes les semaines pour éventuellement pas avoir à se prendre la tête de l'inspiration culinaire. On ouvre les cahiers Delphine à la semaine qui nous concerne. On peut regarder une semaine avant, une semaine après, ça ne change pas grand-chose. Mais on a des idées recettes avec une entrée, un plat, un dessert à faire très simplement et très rapidement. Donc c'est un cahier d'inspiration culinaire au quotidien.
Nous parler d'un autre de vos ouvrages, qui s'appelle Reconversion.
Alors oui, il y a ça aussi, c'est un hors-série qu'on a sorti parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans nos reportages dans la revue 180, on avait souvent affaire à des producteurs qui étaient des gens qui s'étaient reconvertis, qui avaient d'autres métiers avant et qui soit arrivaient au bout d'un, d'un circuit où ils en avaient assez. Et en fait, ils avaient envie de se raccrocher à des valeurs plus terrestres et se lancer dans des métiers qui sont en rapport avec la cuisine. Et donc, on a eu envie de faire un livre entier sur ces parcours-là. Et souvent, ces producteurs, en fait, le font avec passion. Et du coup, ont des résultats superbes parce qu'ils sont très investis dans ce qu'ils font. Et on trouvait leur parcours intéressant. Donc, on les a suivis dans leur vie. Et on a 14 portraits avec aussi des pages techniques pour... comment se reconvertir, les écoles qui forment, etc.
Une des dernières publications, c'était aussi Mathieu Palais sur... je ne me rappelle plus le titre.
Man and Food, ça c'est un livre qui est plus un reportage photo sur les...
Le tour du monde des alimentations primitives.
Voilà.
Comment, à travers l'exemple de 7 peuples... en autosubsistance à travers le monde, on fait pointer du doigt que l'environnement a façonné l'alimentation de l'homme. Et que ce façonnement qui s'est fait sur plusieurs siècles, on ne peut pas, du jour au lendemain, uniformiser l'alimentation pour tout le monde de la même manière. Donc Mathieu Palais a eu la chance de pouvoir s'intéresser à ces 7 peuples qu'il a choisis par rapport à 7 environnements très différents. Donc il s'est intéressé plus qu'à des pays, à des parties géographiques du monde, c'est-à-dire le désert, la montagne, l'océan, les peuples nomades pêcheurs, les peuples du Grand Nord, donc l'Arctique, la jungle, le régime crétois, qui est plus proche du nôtre, j'en oublie un, qui me reviendra peut-être. Et ces 7 peuples sont représentatifs de 7 façons, et les chasseurs-cueilleurs d'Afrique, 7 façons de s'alimenter très différemment. Il faut voir que dans un des numéros de 180, on avait publié aussi un reportage de Mathieu Palais sur une île, une toute petite île qui s'appelle Nauru, qui est perdue au plein milieu du Pacifique. Et cette île a subitement été extrêmement riche, alors qu'elle est très au large de l'Australie. Elle a été très riche parce qu'elle a été un des réservoirs mondiaux de phosphate. Alors, elle a été surexploitée par l'industrie qui a besoin de phosphate, qui a donné beaucoup de finances à l'île. Ils ont européanisé leur mode de vie en très peu de temps et ils sont devenus le pays qui a le plus fort taux de diabétiques au monde. Donc, le fait d'avoir changé leur alimentation en très peu de temps, leur corps ne s'est pas adapté. Et ils ont créé de graves problèmes de santé pour leur peuple. Ils sont obligés maintenant de revenir en arrière, d'autant plus que maintenant ils sont pauvres. Donc ils doivent revenir à des pêches, à un régime d'alimentation qui est plus adapté à leur constitution, tout simplement.
C'est les dérives aussi de l'uniformisation de la cuisine, avec la méthode américaine, souvent, qui envahit un peu la planète.
Il y avait aussi une rubrique qui s'appelle French Imparfait, justement, qui c'est un blog, en fait, ça, qui est une rubrique.
C'est une française qui vit aux États-Unis et qui nous raconte des petits billets comme ça, des dérives de la cuisine américaine, en fait, de leur façon de se nourrir. Donc c'est assez drôle parce qu'il y a, c'est souvent assez éloigné de notre façon de manger. Et donc elle nous raconte les travers, les dérives.
C'est humoristique aussi.
C'est humoristique, mais c'est vrai.
Justement sur le beurre, j'ai une chronique sur le beurre.
Voilà. Ah. Parce qu'elle a la nostalgie aussi de certains produits qui viennent de France et qu'elle ne retrouve pas aux États-Unis parce que là-bas, il n'y a pas de beurre, de vrai beurre. Enfin, c'est rare. Donc c'est plutôt des margarines ou des choses comme ça. Et elle a cette nostalgie-là de la bonne cuisine française.
Et est-ce que vous avez d'autres projets? Donc, on a vu traité de Miamologie 2, donc. Et est-ce que vous, j'imagine que vous avez plein de projets pour,
alors ça,
pour les années à venir, ou les mois ou les
Oui, oui. On est une toute petite équipe, et donc une équipe indépendante. Donc, on se développe à notre rythme, à nos possibilités. On a décidé de s'intéresser, après avoir défendu... peut-être ce qui nous paraissait être le bien manger, on va s'intéresser à ce qu'on imagine être le bien boire. Donc on va s'intéresser, on va créer une revue qui va s'appeler 12 degrés 5 et qui sortira en septembre prochain et qui sera entièrement consacrée aux portraits, à des portraits de vignerons, à des réflexions sur le vin, sur la cuisine et le vin, sur tout ce qui tourne autour de l'univers du vin, en fait, qu'on souhaitait développer un peu plus dans 180, mais on n'a qu'une rubrique vin dans 180, donc on a décidé de créer une revue entièrement dédiée aux amateurs de vin, qui sortira donc, on vous la laissera découvrir, c'est une petite phase teasing, mais on vous la laissera découvrir à partir du 22 septembre prochain.
Le numéro 1.
Le numéro 1, dans les librairies.
Des hors-série en projet ou pas encore ou pas,
il y en a, mais disons qu'on n'a pas de date précise.
Oui,
on n'est pas encore... moi, je continue les cahiers de Delphine toutes les semaines. Donc ça, c'est sur abonnement gratuit. Et après, le reste va suivre tranquillement.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
C'est un plaisir.